Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Féline Drys et bientôt Fautigran 3D, Lady Boo, Sanson et Ratman, sans oublier le père Fouras. Ils ont fait le succès de Fort Boyard, émission de télé qui fête ses 32 ans. C'est aussi l'un des programmes phares de Banijé, l'un des champions français du divertissement qui s'apprête à faire son entrée en bourse de façon beaucoup plus discrète qu'une séance de conseil de Koh-Lanta au moment du choix des éliminés.
Pour sortir ravir.
Mais elle tu est parles là, la de vérité. Stratégie, mais t'as pas honte.
Mais moi j'ai honte. Alors moi j'ai honte de rien, je te le dis du tout.
Ah bah, je vois
c'est
ça,
toi qui devrais avoir honte, tu accumules les mensonges
ça,
et tu te fous en l'air. T'es bidon. Alors ne me parle surtout pas de honte à moi. Surtout pas de honte à moi.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au business de Banijé et de son fondateur Stéphane Courby.
Il est temps de leur montrer qui tu es vraiment.
Je sais qui je suis.
Un roi visionnaire comme vous ne l'avez jamais vu.
C'est ici que nous devons bâtir notre destin.
Bâtir notre destin, peut-on entendre dans la bande-annonce de la série Versailles diffusée en 2015 sur Canal+, série produite en partie par Banijé. Le producteur ne se contente pas de profiter de quelques succès historiques comme Koh-Lanta, Masterchef ou Fort Boyard. Le groupe de Stéphane Courby s'est aussi fait un nom dans les séries télé. Et il s'apprête à adresser un autre univers, celui de la bourse. Le 1er juillet, Banijé fera en effet son apparition à la bourse d'Amsterdam, presque en catimini. Et pour parler de cette opération pas comme les autres, j'ai fait appel à deux invités exceptionnels aujourd'hui. Ils sont tous les deux journalistes au service high-tech média des Échos. Ce sont de fins connaisseurs du milieu de la télévision. Ils en connaissent tous les secrets. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Fabio Benedetti et Marina Alcaraz. Oui, bon, je sais, n'est pas Michel Drucker qui veut. Alors Fabio et Marina, vous avez raconté pour le journal Les Échos la marche triomphale du groupe de Stéphane Courby vers la bourse. Enfin, triomphale, il faudra voir ce que donnera aussi la première cotation le 1er juillet. Mais avant de parler de cette opération, parlons un peu de ce groupe dont le nom sonne parfois aux oreilles de ceux qui regardent la télé. Fabio, d'abord, Banijé, c'est un acteur clé dans la production audiovisuelle en France, mais aussi à l'étranger.
Oui, tout à fait. Depuis une quinzaine d'années, Banijé est devenu le premier groupe mondial indépendant de production audiovisuelle. Il faut savoir que son revenu a été multiplié par 7 depuis 2015 grâce à des acquisitions mais aussi de la croissance organique. Banijé rassemble environ 120 sociétés de production indépendantes. Le groupe emploie environ 50 000 personnes dans le monde, dont 6 000 en France. Donc, c'est un groupe véritablement très international, mais avec un socle d'environ 10% de son chiffre d'affaires réalisé en France. Certes, aujourd'hui, la production est un marché très fragmenté, mais Banijé est tout de même un leader avec 3 milliards de revenus annuels. Selon son fondateur, Stéphane Courby, il représente tout de même environ 3% d'un marché mondial estimé à 100 milliards.
C'est un marché en progression constante avec la multiplication des chaînes et l'arrivée des géants du streaming. Un marché potentiel de 100 milliards, c'est le double du marché du cinéma en 2019. Alors c'était avant la crise, il est vrai. Mais moi, il y a un autre chiffre qui m'impressionne. Banijé, c'est plus de 120 000 heures de production, toujours confondues. Il faudrait plus de 13 ans pour regarder l'ensemble du catalogue du groupe, sans compter la production en cours. Marina Alcaraz, on voit le poids pris par le groupe de Stéphane Courby, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Banijé, c'est un groupe qui s'est constitué à grands coups d'acquisition.
Banijé, son slogan, c'est « We are Banijé ». Donc, clairement, Il s'est constitué à coups d'acquisitions successives. Avec quelques jolis coups, de Stéphane Courby depuis une vingtaine d'années. En 2007-2008, en pleine crise financière, il lance Love Group et Banijay. Love Group, donc le holding aux initiales de ses trois enfants, Lila, Oscar, Vanille. Et il lance Banijay avec la vente de ses parts d'Endemol France, on y reviendra. C'est un pari en pleine crise financière, mais rapidement, la petite société réalise son premier coup d'éclat avec l'acquisition d'Air Production de l'animateur Nagui. Et le fait d'armes dont tout le monde se souvient encore, c'est sans doute le rachat de H2O Production. H2O Production, c'est Cyril Hanouna, d'accord ? Et son rachat en 2012 propulse clairement le groupe de Courby dans le monde des gros de la production audiovisuelle. Il a su repérer le potentiel, il a su le propulser clairement Hanouna sur C8, alors qu'il était moins connu sur France Télévisions. Et avant l'acquisition d'Endemol, dont on reparlera, la grosse acquisition marquante, ça a été Zodiac. Zodiac qui est derrière Versailles, derrière Le Grand Journal, derrière Fort Boyard ou Koh-Lanta. Le mariage entre les deux est célébré en 2016, faisant de Banijay le numéro 4 mondial de la production en télévision, derrière ITV Studio, Endemol Shine et Fremantle. Et le premier indépendant, si on exclut bien évidemment les gros studios américains. Et ça a été un vrai tournant, cette opération, pour devenir un groupe qui compte sur la scène internationale.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité. D'abord...
Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais là, Jean-Claude ?
C'est pas le 20h ?
Mais non, c'est pas du tout le 20h, là, c'est Touche pas à mon poste, France 4.
Ah, la célèbre émission qui cartonne !
Ah oui, bah c'est ça. Enfin, elle cartonne pas
Cyril.
Encore, elle démarre ce soir, je t'expliquerai. Jean-Claude Bourré, c'est parti.
La première émission de Touche pas à mon poste, le 1er avril 2010, avec la complicité de l'ancien présentateur Jean-Claude Bourré, un tournant aussi pour la télé. Marina, il y a une autre opération qui va propulser le groupe sur les hauteurs de la production en Europe. C'est le rachat d'Endemol en 2020, après une première tentative en 2006.
En effet, il avait cherché à acheter Endemol à l'époque. Ça ne s'était pas fait. Il s'était fait doubler par Berlusconi. Aujourd'hui, ses proches conseillers, d'ailleurs, voient ça comme une chance, puisque c'était juste avant la crise financière. Et donc, ça a été une chance, finalement, que ça ne fonctionne pas. Et c'est grâce à ce raté, en quelque sorte, qu'il a construit derrière tous ses succès. Mais Stéphane Courny, en quelque sorte, ne lâchant jamais ses proies, est revenu sur Endemol et à l'automne 2019, on annonce le mariage entre le producteur de Fort Boyard et celui de Big Brothers. Et Banijay, donc derrière Koh-Lanta par exemple, ou encore les émissions de Cyril Hanouna, a acquis l'un des leaders mondiaux de la production audiovisuelle qui s'appelle Endemol Shine, derrière Black Mirror par exemple, et des dizaines de contenus audiovisuels. Et c'est vraiment un mariage qui a bouleversé le monde de la production audiovisuelle en créant un géant de la production audiovisuelle avec un chiffre d'affaires de quelques 3 milliards d'euros à l'époque. Et ce qui est intéressant, surtout dans cette histoire-là, c'est que c'est un peu comme une jolie histoire de film ou une jolie série, puisque c'est le petit français, donc le français Banijay, qui met la main sur plus gros que lui, puisque c'était vraiment un mastodonte, c'est deux fois plus gros que lui, Endemol Shine à l'époque, et il arrive à l'acquérir. Donc, c'est quand même un joli coup.
Le beau coup de Stéphane Courby. Fabio, je reviens vers vous. Banijay, ce sont des fictions, des émissions jeunesse, des émissions de divertissement, de télé-réalité comme L'île de la Tentation, Les Ch'tis et les Marseillais ou l'incroyable famille Kardashian. Mais Banijay a une autre corde à son arc et c'est plus étonnant, les paris sportifs.
Cela peut paraître étonnant, mais en réalité, l'investissement de Stéphane Courby dans BetClick est un pari ancien qui date de 2007. Le marché des paris en ligne, historiquement plus répandu aux États-Unis et en Angleterre, est en train de connaître un essor considérable en Europe continentale aussi. En 2027, ce marché devrait représenter 115 milliards d'euros à l'échelle mondiale, soit un doublement. Et BetClick tire son épingle du jeu. Il a déjà triplé ses revenus depuis 2015. Du coup, la future société cotée, FL Entertainment, pourra s'appuyer sur deux moteurs de croissance et de rentabilité. La production audiovisuelle d'un côté avec Banijay et les paris sportifs en ligne avec BetClick. Et puis, il y a un autre avantage à regrouper BetClick et Banijay. En fait, BetClick est une société très peu endettée, ce qui permettra d'améliorer le profil financier du futur ensemble.
Banijay a été créé par Stéphane Courby avec son associé Marco Bassetti. Stéphane Courby, il a 57 ans, c'est un entrepreneur qui gravite depuis des années dans les coulisses de la télévision. Un personnage plutôt discret dans ce monde médiatique. Marina, qui est-il ?
Eh bien, justement, c'est la beauté de l'histoire. Et là aussi, on dirait un scénario de film ou de série télévisée. Stéphane Courbet est parti de rien, ou quasiment rien. Il n'est pas le fils d'un grand producteur, il n'est pas dans le milieu du cinéma à l'époque. C'est vraiment un provincial, natif de Puy-Saint-Martin, un village de la Drôme aux 800 âmes. Et c'est vraiment quelqu'un d'inconnu avant d'arriver finalement à Paris, et fils d'une postière et d'un employé du Crédit Agricole. Il passe une enfance à la campagne, tranquille, hein, loin des strass et des paillettes. Et il nous disait en 2015, dans un portrait qu'on lui avait consacré avec ma consoeur Sandrine Cassini, « Quand j'étais jeune, je ne rêvais pas de travailler dans ce milieu. Je savais simplement que je voulais bosser pour moi, être indépendant. » Alors, il monte à Paris pour suivre une petite copine à l'époque, dans les années 80. Il va dans une école de commerce, pas forcément parmi les plus reconnues, hein, l'ISG. Et c'est là qu'il fait un stage chez Christophe de Chavannes.
Bonjour, bonsoir. Nous sommes ensemble jusqu'à la fin de cette émission.
Cette rencontre avec un certain Christophe de Chavannes, ça va être un moment clé de son parcours.
Il débute en fait en tant qu'assistant Minitel, donc vraiment en bas de l'échelle dans la production audiovisuelle. Il prépare les questions de Chavannes. Mais c'est un gros brosseur et très très vite, son patron, donc Christophe de Chavannes, le repère. Il lui confie la production d'une émission. Combien ça coûte? On l'a tous connu, je pense, cette émission. Et à ce moment-là, l'élève cherche à dépasser le maître. Il propose à De Chavannes, alors au fait de sa gloire avec Ciel Mon Mardi, de s'associer à part égale. Mais malheureusement, ils ne s'entendent pas sur les termes de l'accord et De Chavannes le vire.
Attendez, ça ne sert à rien, on va interrompre l'émission, monsieur. On va interrompre l'émission.
Non, il ne faut pas qu'il soit dehors, il faut que les gens...
Mais Stéphane Courbet ne s'est absolument pas arrêté là. Maintenant, on commence à connaître sa personnalité. Il ne s'arrête pas en chemin. Il crée un cachet avec Arthur. Alors, méconnu, hein, Arthur le producteur, Case Production. Et bien évidemment, De Chavannes n'est pas du tout ravi de cette époque-là. Il tente de faire exclure de la une. Enfin, il dénonce le félon. Mais l'aventure quand même démarre en trombe pour Stéphane Courbet et son acolyte Arthur avec les enfants de la télé pour France TV. C'est peu avant le scandale des voleurs de patates dont on a entendu parler, le scandale des animateurs-producteurs capables de négocier des contrats mirobolants.
Mais ce qui est étonnant, c'est que c'était vraiment un petit genou qui s'est retrouvé au milieu des grands noms de la télévision de l'époque.
Exactement, c'est vraiment un petit jeune. Et d'ailleurs, pour répondre à cette question, je lisais hier un vieux portrait de Challenge où, paraît-il, la blague favorite de Nicolas de Taverneau, le patron de M6, c'était lorsqu'il présentait donc Stéphane Courbet à une personne, c'était « Désolé, Stéphane n'a pas pu venir, il a envoyé son fils ». Et même aujourd'hui, donc il a 57 ans, il fait encore jeune. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui s'entretient beaucoup, il fait du sport, il est très élégant. D'ailleurs, les femmes, quand on parle de lui, tout le monde dit c'est un beau gosse, voilà.
Je suis le beau gosse américain. Je suis précoce, j'ai le coquin.
Le beau gosse précoce de Maurice Chevalier, Stéphane Courbet, vendra à l'orée du XXe siècle sa société à Endemol. Il en prendra la présidence en France et du coup son nom reste associé à un programme qui a révolutionné le monde de la télévision, Love Story. Il a à peine 35 ans.
Alors Love Story, il faut remettre vraiment ça dans son contexte. Hein. À l'époque, on est au début des années 2000, c'est vraiment un game changer ce programme-là. Hein. On n'imaginait absolument pas, au début des années 2000, que les téléspectateurs se passionneraient pour la vie de jeunes adultes enfermés 24 heures sur 24 dans une villa en carton-pâte. C'est un véritable phénomène cathodique pour lequel Stéphane Courbet a œuvré. Et c'est un phénomène de société qui n'a laissé personne indifférent. Souvenez-vous, on parlait de voyeurisme, de télépoubelle. Et pourtant, c'est un premier coup d'éclat. Il a tenté, parce que c'était quand même osé, et il a réussi. Hein. L'émission enchaîne les records. Par exemple, le lancement de la saison 2, c'est 8,2 millions de téléspectateurs qui ont suivi le programme. C'est presque un match de foot. Et avec cet exemple, on voit vraiment une ébauche de sa personnalité. J'avais en ligne, pas plus tard qu'hier, un spécialiste de la production pour préparer ce podcast qui me disait « C'est quelqu'un qui n'a peur de rien ». Et on le voit dans les faits plus récents. Il n'a pas hésité à racheter un Demolsheim deux fois plus gros que lui. C'est quelqu'un qui, voilà, ne lâche rien. Acharné.
Ah, mais la société Love Group ne s'intéresse pas seulement à la petite lucarne.
Love est présent dans plusieurs secteurs. Love, c'est les hôtels de luxe, Vous connaissez peut-être, Pierrick, les Airelles avec des hôtels à Gordes, Saint-Tropez, dans le sud de la France, ou encore Méribel, pour n'en citer que quelques heures. Peut-être avez-vous eu l'occasion d'y aller. C'est des 4-5 étoiles, hein, donc
c'est très beau hôtel.
Betclic dans les paris sportifs, Banigy dans la télé, et plus récemment, par exemple, La Durée. Il y a eu aussi dans le passé Direct Energy, dans lequel il a revendu ses parts. Il y a eu également des investissements plus hasardeux. Par exemple, il avait tenté une tentative de fonds d'investissement destiné à faire des acquisitions. C'était peu avant l'affaire Bettencourt, projet Mornay.
Il est né dans un petit village de 800 habitants dans la Drôme. Il n'a pas fait de grandes études. Et aujourd'hui, il tutoie les étoiles et fait partie des plus grandes fortunes de France. Quel regard porte-t-il sur son parcours, Marina ?
C'est même la 70e plus grosse fortune française, selon le classement Challenge. En fait, ce point de départ, c'est donc une négociation réussie pour ses parts d'un Endemol France. Plus précisément, il fusionne Case avec la filiale française d'Endemol, si je résume, et il revend le tout peu de temps après à Telefonica. Il empoche à ce moment-là 240 millions d'euros qui lui permettront de démarrer Love Group et de démarrer Banijé. Et en 2015, il nous disait, donc dans ce portrait pour lequel nous l'avions interrogé, « Je ne me voyais pas rester chez moi à gérer mon portefeuille d'actions ou mon patrimoine. Pour moi, c'est la misère absolue. Tant que mes enfants ne seront pas adultes, je n'ai pas envie de leur donner une image d'oisiveté », avouait-il. Et donc, il a toujours cherché finalement à réinvestir cet argent. Et maintenant, il est multimilliardaire et il continue.
Et c'est aussi un patron très discret dans la presse.
C'est un homme extrêmement discret. Il donne peu d'interviews, il apparaît peu dans les soirées mondaines. J'ai lu même plusieurs portraits de lui où il n'apparaît pas, par exemple. Ce sont des portraits sans lui. Et pourtant, tout le monde connaît ses émissions. Hein. Je rappelle quand même Miss France, c'est lui. Koh-Lanta, c'est lui. Touche pas à mon poste, c'est lui. Et le retour de la Starac, c'est lui encore. Donc, son empire médiatique est énorme. Et Courbet, Stéphane Courbet, c'est vraiment un homme de paradoxe. C'est à la fois un requin en affaires, dit-on. Et il est extrêmement prévenant avec ses salariés. Il est très famille, il est proche de ses enfants. Il déteste les mondanités. Et pourtant, il a plusieurs attributs de réussite et de richesse. Hein. Il s'est installé à Neuilly, il possède un chalet à Courchevel, il possède une villa à Saint-Tropez, et il avait même eu un yacht qui, pour la petite histoire, le Yogi, avec piscine et jacuzzi, qui avait coulé en mer Égée. Et il nous racontait en 2015, ce yacht, c'est un péché d'orgueil. Donc clairement, Stéphane Courbet, c'est un homme de paradoxe, qui à la fois est discret et extrêmement simple dans la manière dont il s'exprime, et à la fois qui a tous les attributs de richesse, très bling-bling.
Il y a tout de même une ombre à ce beau tableau, c'est sa mise en examen et sa condamnation dans l'affaire Bettencourt en 2013-2015.
C'est sa plus grande blessure, explique Alain Minck, son conseiller de toujours. En fait, il dit même, pourtant si la famille Bettencourt avait fait confiance à Stéphane, elle aurait fait la meilleure affaire de sa vie, dit-il aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'à cette époque-là, c'est vraiment une énorme blessure et un énorme raté pour Stéphane Courbet en pleine ascension. En fait, Stéphane Courbet a reçu en 2011 143 millions d'euros de la part de Liliane Bettencourt en échange de 20% du capital de son groupe. Eh bien, en mai 2015, pleine affaire Bettencourt, le tribunal correctionnel de Bordeaux le condamne à 250 000 euros d'amende pour avoir profité de sa proximité avec Pascal Willem, qui était à la fois son propre avocat et le mandataire de Liliane Bettencourt, pour obtenir rapidement des fonds. Et c'est vraiment une plaie pour lui. Lui, quand on l'avait vu en 2015, il nous racontait que c'est vraiment le reflet d'une injustice. J'ai bu le calice jusqu'à la lie et je ne comprends toujours pas comment je me suis retrouvée là-dedans, expliquait-il. Et pourtant, il a refusé de faire appel. Il disait « Cela me coûte, mais je ne voulais vraiment plus avoir à parler de cette affaire. »
Stéphane Courbet, vous le disiez, quelqu'un de discret, vous soulignez ses paradoxes. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'entre gens.
Plusieurs bonnes fées sont penchées sur un berceau, enfin, du moins son berceau tardif. Nemeo, la fondatrice de l'agence Image 7, qui a mis vraiment un pied à l'étrier et qui a présenté plusieurs personnes, qui est d'ailleurs toujours son agence de communication.
Oui, c'est la conseillère de beaucoup d'entreprises du CAC 40, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas.
Jean-Michel Darrois, l'avocat également. Alain Minck, son conseiller toujours. Et en fait, c'est nous racontait que c'était Vincent Bolloré, finalement, qui l'avait envoyé, ce jeune homme, et lui avait dit « il faut l'aider ». Et il a retrouvé en lui, puis il a retrouvé chez d'autres entrepreneurs comme Pinault, La Charrière ou Bolloré, c'est-à-dire vraiment le chromosome de l'entrepreneur, disait Alain Minck. Et aussi Sarkozy, Nicolas Sarkozy, qu'il a rencontré au départ pour une affaire de permis de construire avec laquelle il est devenu ami, et plein d'autres. Il connaît tout le CAC 40, cet homme-là.
We
Billard, Banijé proclame cette vidéo destinée à l'international pour montrer les différents métiers de Banijé. C'est le troisième producteur mondial et ça ne sera pas de trop pour convaincre les investisseurs. Le 1er juillet, Stéphane Courby va en effet introduire en bourse Banijé, mais Fabio Benedetti, ce ne sera pas par le biais d'une introduction classique.
Non, ce sera via un SPAC, Special Purpose Acquisition Company, coté à la bourse d'Amsterdam. Les SPAC sont des instruments financiers qui ont suscité un engouement phénoménal aux États-Unis depuis environ 2 ans. Il y en a 900 qui ont été introduits en bourse aux États-Unis par leurs sponsors. Leur but est simple, effectuer une acquisition dans un temps imparti, généralement 18 mois, ou le cas échéant, si elles n'y arrivent pas, rendre les fonds levés aux actionnaires. En Europe, il y a en tout cas beaucoup moins de ces véhicules cotés, de ces SPAC. En 2021, seulement 34 ont été créés sur le vieux continent.
Ah, il y a un montage un peu complexe, hein, une double fusion. Banijé fusionne d'abord avec Betclic pour devenir FL Entertainment et cette société va se rapprocher de cette coquille vide déjà cotée Pegasus Entrepreneur, lancée à Amsterdam par la société de gestion Tikeo et par la financière Agash, propriétaire des Échos via LVMH. C'est une opération qui permet à Stéphane Courby de rentrer plus facilement en bourse pour financer sa croissance future, sachant aussi que c'est une opération en bourse qui intervient dans un contexte boursier plus compliqué, Fabio.
Même si le vent de panique qui souffle sur les marchés a rendu de plus en plus rare les levées de fonds de ce type via un SPAC, pour les entreprises qui souhaitent s'introduire en bourse, passer par ce type de véhicule présente en tout cas un avantage qui est celui d'avoir un prix déterminé à l'avance. Et c'est pas peu de choses quand on voit les turbulences en fait qui affectent les marchés, parce que par rapport donc à une introduction en bourse classique, ici on pourra rentrer avec un prix déterminé à l'avance, ce qui élimine beaucoup d'incertitudes.
FL Entertainment, ce sera un nouveau géant coté du divertissement en France.
Le nouveau groupe gardera bien sûr des actionnaires majoritairement français, et ce sera véritablement un géant du divertissement européen, il faut dire. Il sera coté à Amsterdam et avec une envergure d'ores et déjà globale dans la production audiovisuelle, car Banijé génère 18% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, le premier marché mondial de la production audiovisuelle. Si on regarde sa valorisation, on se rend compte aussi de la taille très importante de ce groupe qui aura une valorisation d'environ 4 milliards d'euros. C'est au moins 3 fois plus que la valorisation de... Prenons un exemple, Mediaset, pas pris au hasard parce que le groupe de Berlusconi avait en 2007 acheté la société néerlandaise Endemol avant de la revendre quelques années après.
Et 4 milliards, c'est aussi plus que la capitalisation de M6 et de TF1 réunies. Cette SPAC doit servir les ambitions du groupe en matière d'acquisition. Vous avez rencontré Stéphane Courby avec Nicolas Madeleine pour Les Échos. Il vous a dit s'il avait déjà des cibles en tête?
Sans surprise, Stéphane Courby n'a pas partagé les noms des cibles, mais il nous a expliqué les axes possibles de développement et la logique, disons, l'esprit dans lequel les acquisitions pourraient se faire. Du côté de Banijé, ce groupe de production audiovisuelle, ce leader européen et mondial de la production audiovisuelle, pourrait étudier des opportunités aux États-Unis, s'il y en avait, qui se présentaient. Et puis aussi, en Corée du Sud, eh bien, le pays de Squid Game, c'est un pays très créatif et dans lequel, aujourd'hui, la société n'est pas présente. En Europe, Banijé participera à la consolidation dans la production audiovisuelle aussi, s'il devait y avoir des mouvements significatifs. Et pour l'instant, ce groupe va continuer dans ce que Stéphane Courby appelle son ADN, c'est-à-dire des petites acquisitions. Par rapport à Betclic, le développement pourrait se faire dans le jeu vidéo, mais aussi dans la retransmission d'événements en direct. Et puis, Stéphane Courby nous a confié que Betclic pourrait se renforcer en Italie, un des 4 pays dans lesquels il est présent, mais dans lequel il veut donc atteindre une taille critique.
Vous parliez d'investisseurs puissants au sein du capital du groupe. Ça veut dire qu'il s'est donné aujourd'hui les moyens financiers de ses ambitions?
C'est clairement un des objectifs de cette cotation et de cette opération qui va permettre à Banijé et Betclic d'entrer en bourse, lever de l'argent frais. Donc, répétons-le, 645 millions d'euros. Dans le détail, le holding de Stéphane Courby va apporter 250 millions d'euros en investissement supplémentaire. Et puis Vivendi, Fimalac ou encore la maison d'édition italienne D'Agostini, qui sont déjà actionnaires, ont tous réinvesti leur participation existante dans Banijé. Par ailleurs, il y a aussi un instrument de placement privé d'actions qui permet à la fois aux investisseurs existants d'investir de nouveaux fonds, mais aussi à certains nouveaux actionnaires d'entrer. Il s'agit d'investisseurs très avertis comme Exor, le holding de la famille Agnelli, AXA ou encore le fonds du financier Didier Le Ménestrel. Et puis enfin, les sponsors du SPAC, Tikeo et la financière Agash, qui à travers LVMH détient les échos, ont aussi apporté des fonds additionnels. Tout cela permet effectivement de renforcer les marges de manœuvre financières.
Merci Fabio Benedetti et Marina Alcaraz, journalistes au service high-tech média des Échos. La semaine prochaine, on vous parlera ici d'une autre apparition en bourse, celle de Deezer. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous pouvez écouter La Story, une production des Échos sur Deezer, mais aussi Spotify, Apple Podcasts, Castbox ou encore Podcast Addict. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.